Chapitre 3. Après avoir donné quelques spectacles où on applaudit le capitaine Fracasse, les comédiens arrivent à Poitiers. Leur situation financière est meilleure et ils choisissent de s'installer aux Armes de France, la plus belle auberge de la ville. Zerbine, à qui le marquis de Bruyères a fait de magnifiques cadeaux, c'est pour le retrouver qu'elle a quitté la troupe, a décidé de rejoindre ses compagnons. Tous sont ravis de la revoir. On les conduit aussitôt dans leur chambre. Celle d'Isabelle se trouve un peu plus loin que celle des autres, ce qui plaît beaucoup à la jeune femme. Une fois installée chez elle, comme un rayon de soleil brille, Isabelle ouvre la fenêtre et se met à examiner la vue qu'on découvre de sa chambre. Elle voit d'abord un agréable jardin, puis la rue où se trouve un bel hôtel particulier. Deux jeunes gens de bon aspect passent alors dans la rue et aperçoivent Isabelle à sa fenêtre. Il s'agit du séduisant duc de Vallombreuse, accompagné de son fidèle ami, le chevalier de Vidalenc. Le duc voit Isabelle et dit à son compagnon : « Tu vois cette fenêtre, cette adorable et délicieuse créature ?» Sur ce, il s'arrête et plante son regard droit sur la jeune femme. En voyant ce qui se passe, Isabelle prend un air froid et referme la fenêtre. Les deux amis entrent alors dans l'auberge et demandent à l'hôtelier, qui se nomme Bilot. « Tu as du monde en ce moment ? Mais au fait, dis-moi, quelle est la femme qui habite la chambre dont la fenêtre donne sur l'hôtel Vallombreuse ? Réponds vite et tu auras une pièce d'or par syllabe. »« Votre seigneurie, à ce prix, je pourrais faire un long discours, mais je vais dire un seul mot. « Isabelle !» répond Bilot en riant. « Isabelle ?» Nom charmant et romanesque, dit Vallombreuse. Mais raconte-moi tout ce que tu sais de cette infante. Isabelle est une comédienne qui appartient à une troupe qui loge en ce moment à l'hôtel des Armes de France. Une comédienne ? Dit le jeune duc d'un air déçu. À sa mine discrète et réservée, je pensais qu'il s'agissait d'une dame de qualité. On peut se tromper, continue l'aubergiste. La demoiselle a des manières fort décentes. « Cela me plaît, » dit Vallombreuse. « La conquête sera plus intéressante. »« Et difficile, » dit Bilot, « parce qu'elle est gardée par la sentinelle vigilante d'un pudique amour. »« Elle a donc un amant, cette sage Isabelle !» s'écrie le jeune duc, contrarié d'apprendre qu'il a un rival. « J'ai dit amour et non pas amant, » dit l'aubergiste. « Ce n'est pas la même chose. »« Et qui est cet homme ?» « Un comédien de la troupe, » répond Bilot, « qui a des allures assez nobles. »« Eh bien, » dit le chevalier de Vidalenc à son ami, « vous devez être content. Une comédienne vertueuse, cela ne se rencontre pas tous les jours. C'est en effet une affaire d'un grand intérêt. Ce soir, au jeu de paume, il y a une répétition de la pièce qu'on doit jouer demain. Quelques nobles de la ville seront admis, » dit Bilot. « Nommez-vous ?» et vous n'aurez aucun problème à y entrer. » Ce soir-là, le jeune duc se présente au jeu de paume. Il est élégamment vêtu et admirablement beau. Il observe un moment la salle et voit Isabelle qui se prépare pour la représentation. Il la trouve d'une grande beauté. Il se place aussitôt près de la toilette de la jeune femme et met son bras sur le cadre du miroir. Isabelle, qui reconnaît le jeune audacieux, continue à se préparer sans un regard pour lui. Vallombreuse dit alors brusquement à la comédienne : « C'est vous, mademoiselle, qui jouez Sylvie dans la pièce de Lydamon et Lydias de monsieur de Scudéry ?»« Oui, monsieur, » répond Isabelle qui se force à répondre à cette question extrêmement banale. « Vous rendrez ce rôle excellent. » Isabelle doit accepter le compliment et remercie le duc avec une petite inclinaison de la tête. Sigognac apparaît alors, vêtu de son costume de scène, et s'approche d'Isabelle, la main sur son épée. « Vous êtes vraiment très bien, » lui dit Isabelle avec un sourire. Le duc de Vallombreuse jette un œil sur le nouveau venu, à qui Isabelle parle avec un ton très doux, et se dit « Voilà sans doute le minable dont on dit qu'elle est amoureuse. » Mais il préfère l'ignorer et continue à dévorer Isabelle des yeux. La jeune femme se sent rougir et se presse de terminer sa toilette. Elle pose alors une mouche près de sa lèvre et veut se lever pour aller sur la scène.
« Permettez, mademoiselle, » dit le duc,
« vous oubliez une mouche. » Et, mettant la main dans la boîte posée sur la toilette, il prend une petite étoile noire et essaie de la poser près du sein d'Isabelle. Isabelle, choquée, se renverse contre la chaise pour éviter ce contact. Mais le duc continue son geste et au moment où il va poser la mouche, une main de fer lui saisit le bras et le tient avec force. Le duc, fou de rage, tourne la tête et voit le capitaine Fracas. « Monsieur, » dit Sigognac, en tenant toujours fermement le bras de Vallombreuse, « mademoiselle pose ses mouches elle-même. Elle n'a besoin de l'aide de personne. » Puis il lâche le bras du duc et met sa main sur son épée. Vallombreuse, hors de lui, s'écrie alors « Drôle ! Je vais te faire battre par mes valets !»«
Prenez garde, monseigneur, » répond Sigognac d'un ton tranquille. « J'ai les os durs. Ce sont les bâtons de vos valets qui vont se briser. »«
Insolent !» dit le duc.
« Nous nous reverrons quand le moment viendra. »
Sur ce, il part avec Isabelle, car la représentation doit commencer. La répétition se déroule parfaitement. Isabelle, malgré sa nervosité due à l'incident, joue très bien et Fracas, excité par la querelle, se montre brillant. Il est maintenant temps de rentrer à l'hôtel. Les comédiens enlèvent leur tenue de scène et prennent leurs habits de ville. Sigognac fait de même, mais il préfère garder son épée de Matamor car il pense que le duc va mettre sa menace à exécution. Au moment de sortir, Hérode, qui est au courant de l'incident, prend un bâton et dit au baron « Laissons les femmes partir d'abord, avec Léandre et Blasius. Scapin va rester avec nous. » « Merci, mon brave Hérode, » répond Sigognac. « J'apprécie et accepte ta proposition. Mais prenons bien nos dispositions, car nous pouvons être attaqués à l'improviste. Marchons les uns derrière les autres à un certain intervalle, juste au milieu de la rue. Ainsi, si les valets nous attendent, cachés dans l'ombre, ces coquins vont devoir se montrer pour nous attaquer, et alors notre réaction sera rapide. » Ils attendent le départ des autres, puis se mettent en marche. Il fait très noir dans la rue, car il n'y a pas de lune cette nuit-là. Sigognac marche en tête. Bientôt, il aperçoit quatre hommes et fait semblant de retourner sur ses pas. Les hommes, pensant qu'il veut s'enfuir, se précipitent sur lui en criant
« Tue ! Tue ! Au capitaine Fracas de la part du duc !»
Sigognac sort alors son épée. Ses compagnons arrivent et une terrible lutte a lieu. En peu de temps, les trois amis sortent vainqueurs de cette bataille et rentrent tranquillement à l'hôtel. Les autres comédiens les attendent, angoissés. Ils ont entendu les cris des attaquants et ont compris qu'il se passait quelque chose. Isabelle, en voyant Sigognac indemne, pousse un petit cri et met ses bras autour du cou du jeune homme.
« Je suis si heureuse de vous voir sain et sauf. Tout ce qui vient d'arriver est de ma faute. »
« Je ne laisserai jamais personne vous insulter, chère Isabelle. Vous le savez. »
Comme il est tard, les acteurs décident d'aller se reposer. Seul Sigognac reste dans l'entrée de l'hôtel pour réfléchir à l'incident. Il pressent que le duc va vouloir se venger. Il doit prendre une décision, dire son vrai nom et s'affronter à lui. À la fin de la représentation, il a vu le marquis de Bruyère qui a rejoint Zerbine. Alors, sans hésiter, il se dirige vers la chambre de la jeune comédienne. « C'est aimable à vous de venir nous surprendre dans notre nid d'amoureux, » lui dit le marquis. « Prenez place à table et partagez notre souper avec nous. »«
Merci de votre invitation. Je l'accepte avec plaisir. Mais ma présence ici est pour une autre raison. Je vous demande de défier, en mon nom, le duc de Vallombreuse.
Je sais pourquoi vous me faites cette demande, baron de Sigognac. C'est la première fois que le marquis donne son vrai nom au jeune homme. Et je vais le faire et vous servir de témoin pendant cette rencontre. Mais tout est dit. Nous n'allons pas ennuyer Zerbine avec ses querelles. Soupons tranquillement maintenant. » Le lendemain, le marquis va rendre visite au duc de Vallombreuse et s'acquitte de sa mission en lui expliquant qui est, en réalité, le jeune homme qui a défendu Isabelle. Le duel a lieu 2 jours plus tard à la campagne. Vallombreuse, persuadé qu'il est face à un adversaire faible, est très surpris de constater que le baron est très brillant. Après un dur combat, Vallombreuse est blessé au bras et lâche son épée. Il indique ensuite à Cigognac qu'il en a assez. Après avoir salué son adversaire et le chevalier de Vidalinck, qui était le témoin du duc, Cigognac et le marquis de Bruyères reprennent le chemin de la ville. Le duc de Vallombreuse, quant à lui, blessé physiquement et dans son orgueil, décide de se venger du baron et fait part de ses intentions à Vidalinck. Le lendemain du duel, les comédiens donnent une représentation en public. Tout Poitiers a appris qu'un duel a eu lieu entre le duc de Vallombreuse et un comédien, et que le duc a été blessé. Comme le jeune noble n'est pas très apprécié, tout le monde a hâte de connaître le vainqueur et de le féliciter à sa manière. Quoi de mieux pour le faire que de se rendre à la représentation? Quand, à la fin du spectacle, le rideau tombe, on applaudit avec force le capitaine Fracasse et, naturellement, la belle Isabelle. Une fois de retour à l'hôtel, après ce triomphe, Cigognac accompagne Isabelle jusqu'à sa chambre. Cette dernière l'invite à entrer.
Jurez-moi de ne plus vous battre pour moi. Jurez-le, si vous m'aimez, comme vous le dites, dit-elle au baron.
C'est un serment que je ne peux pas faire, répond le baron.
Je ne laisserai personne vous manquer de respect. Et c'est vrai, je vous aime, adorable Isabelle, et je veux vous donner mon nom qui est pur et sans tache, comme vous.
À ces mots, Isabelle, prise de passion, approche son visage de Cigognac et lui donne un baiser sur les lèvres.
« Vous serez ma femme !» dit Cigognac, fou de bonheur. « C'est impossible, mon ami. Tout nous sépare. Vous ne pouvez épouser une simple comédienne, vous qui appartenez à une très noble famille. »
« Isabelle, vous serez ma femme et je vous conduirai un jour dans mon château, qui sera à nouveau magnifique. » Après une nouvelle représentation à laquelle assiste une foule plus considérable que la précédente, Isabelle trouve dans sa chambre un coffret qui vient de la part du duc de Vallombreuse. Elle demande aussitôt à maître Bilot de le redonner à la personne qui l'envoie. Après le départ de Bilot, la jeune femme, assez agitée, ouvre la fenêtre pour faire entrer un peu d'air. Une lumière brille à travers les branches des arbres sur la façade noire de l'hôtel Vallombreuse. La rue semble déserte. Cependant, Isabelle croit entendre une voix très basse qui dit « Elle n'est pas encore couchée. » Très intriguée par cette phrase, elle se penche un peu et il lui semble voir, dans l'ombre, au pied du mur, deux formes humaines immobiles comme des statues de pierre. Comme il se sent observé, les personnages énigmatiques disparaissent rapidement. Isabelle n'entend plus rien. Elle referme doucement sa fenêtre, pousse le verrou de sa porte, pose la lumière près de son lit et se couche avec une certaine angoisse. Elle essaie de se raisonner, mais peine perdue. En haut d'un des murs de sa chambre, il y a une sorte de lucarne ronde. Isabelle, sans savoir pourquoi, ne cesse de la regarder. Elle a deux barres de fer, donc rien ne peut venir de ce côté. Pourtant, à un certain moment, Isabelle croit voir briller deux yeux humains à ce trou. Bientôt, une tête aux longs cheveux noirs apparaît dans un des étroits compartiments de la lucarne, puis un bras, puis des épaules, et une petite fille se glisse par l'ouverture et se laisse tomber sur le sol. L'enfant, croyant Isabelle endormie, s'approche du lit et dit « La dame au collier !» Et elle touche les perles qu'elle porte au cou. « La dame au collier !» De son côté, Isabelle, à demi-morte de peur, reconnaît la petite fille qui a participé à l'embuscade menée par Agostine quand il se rendait au château de Bruyères. Elle essaie d'appeler au secours, mais l'enfant lui met la main sur la bouche. « Ne crie pas, tu ne cours aucun danger. Chiquita a dit qu'elle ne couperait jamais le cou de la dame qui lui a donné les perles qu'elle avait envie de voler.
« Mais que viens-tu faire ici, malheureuse enfant ?» demande Isabelle.
« Ouvrir le verrou que tu pousses tous les soirs, » dit Chiquita.
« On m'a choisi pour cela parce que je suis agile et mince comme un serpent. »«
Et pourquoi voulais-tu ouvrir le verrou? Pour me voler ?»«
Oh non !» répond Chiquita.
C'était pour que les hommes entrent dans la chambre et t'emportent.
« Mon Dieu, je suis perdu !»
s'écrie Isabelle. « Mais non, dit Chiquita, car je vais laisser le verrou fermé. Ils ne vont pas oser forcer la porte. » « Qui a tramé cette horrible machination ? » dit la pauvre comédienne. « C'est un seigneur qui a donné de l'argent. Oh, beaucoup d'argent. Mais peu importe, tu m'as fait cadeau des perles. Je vais dire aux autres qu'il y avait un homme dans ta chambre et que je n'ai pas voulu entrer. Laisse-moi te regarder. Tu es belle. Et je t'aime, oui, beaucoup. Presque autant qu'Agostine. Tiens, prends ce couteau. Il te sera peut-être utile. Maintenant, je m'en vais. Adieu. Souviens-toi de Chiquita. » Isabelle attend le jour avec impatience, sans pouvoir fermer l'œil de la nuit. Le lendemain, elle raconte tout à ses compagnons. Cigognac, furieux, veut saccager la maison du duc de Vallombreuse, car il est sûr que c'est lui qui a tout monté. « À mon avis, dit Blasius, il faut partir au plus vite. Allons à Paris, car nous y serons plus tranquilles. »